Alors qu'il s'adressait à un groupe de plusieurs centaines de militaires. Il leur demanda « Avez-vous honte de votre uniforme ?» Un unanime « Non !» répondit. « Avez-vous honte de votre pays ?» À nouveau, une clameur s'éleva « Non !» Alors il posa la question insidieuse. « Avez-vous honte de Jésus-Christ ?» Un silence de mort régna sur l'assemblée, jusqu'à ce qu'enfin, un seul soldat s'exclame « Non, moi, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. » Cette histoire nous montre bien qu'en matière spirituelle, nous sommes au fond loin d'éprouver la même attirance, le même sentiment que pour les choses plus terre-à-terre, plus matérielles. Un épisode de la vie de Jésus nous prouve qu'il en était déjà ainsi de son temps. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6 et au verset 65, il dit « Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est une foi profonde, sincère, qu'exprime ici l'apôtre Pierre. Il dit spontanément ce qu'il éprouve dans son cœur. Il est certain de ce qu'il avance, et cette certitude le met à l'abri des doutes. Il vit dans la ferme espérance de cette vie éternelle que le Christ est venu offrir au monde. Nous devrions tous être à même de pouvoir vivre à l'abri de notre foi. En Hébreux chapitre 6 et verset 9, il est dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Cette foi doit être une immense sécurité, une force incommensurable, qui devrait nous permettre de nous écrier comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » On croit toutefois souvent trouver la sécurité dans les choses du monde, et cela donne l'impression de se trouver à l'abri de tout. Nous nous laissons souvent guider par nos impressions, sans réaliser qu'elles sont, hélas, très souvent fausses. Paul avait par exemple la sensation de faire son devoir envers Dieu en persécutant les chrétiens. Il dit ailleurs en Actes chapitre 26 et verset 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Très souvent, nous nous laissons guider entièrement par notre instinct, par nos impressions, par nos propres idées, sans réaliser que nous devrions en réalité placer notre confiance, notre sécurité future et présente dans les seules mains de Dieu. Une petite fille qui venait de perdre ses parents est placée chez des étrangers. Le soir de la première nuit qu'elle allait passer sous ce nouveau toit, elle se déshabilla puis pria comme sa maman lui avait appris à le faire. Elle dit à la fin de sa prière, « Ô Père Céleste, rends mes nouveaux parents aussi bons que ma chère maman et mon cher papa l'étaient. S'il te plaît, fais-le. » Puis après un petit silence, elle ajouta, « Bien sûr. » Que tu vas le faire. C'est comme cela que nous devons nous aussi mettre notre confiance en Dieu et nous remettre entre ses seules mains. L'exclamation de Pierre s'adressant à Jésus devrait nous faire réfléchir. Seigneur, à qui irions-nous? Oui. Devons-nous nous fier à des hommes qui pensent qu'ils représentent et personnifient même Dieu sur la terre? Pouvons-nous accepter l'idée que quand ils parlent, c'est en réalité Dieu qui s'exprime par leur bouche? Qu'ils ont le droit de décider ce que nous devons croire ou ne pas croire, faire ou ne pas faire. Je pense, quant à moi, que trop de gens placent leur pleine confiance dans de simples hommes en pensant qu'ils sont, en matière spirituelle, à l'abri de toute erreur. Un épisode de la vie de l'apôtre Pierre nous montre combien l'homme, quand il se fie à son seul jugement, est capable de se tromper. Paul raconte en Galates chapitre 2 et versets 11 à 14 qu'avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Pierre n'avait pas encore compris à cette époque-là qu'il n'y avait aucun péché à fréquenter et même à manger avec les non-convertis. Il se fiait à son seul jugement. L'Éternel lui avait déjà dit pourtant, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, en Actes chapitre 10 et verset 15. Une vieille demoiselle pleine de sagesse et d'expérience m'écrivait un jour ceci. Beaucoup de gens, en mettant leur confiance dans les hommes, en arrivent tôt ou tard à traverser quatre stades distincts. Ils croient que les hommes sont tout ce qu'il y a de meilleur, et sont par conséquent prodigues de leur amitié et de leur pleine confiance. Ensuite, l'expérience aidant, cette confiance diminue sensiblement. Ils deviennent bien plus circonspects avant de l'accorder à nouveau. Ils ne veulent plus construire sur n'importe quel sol. Plus tard, dans la vie, ils s'aperçoivent que les êtres humains portent en eux-mêmes plus de bien que de mal, et qu'il vaut mieux en fait les plaindre que les blâmer, car ce ne sont après tout que des êtres de chair. Alors seulement, ils réalisent que ce n'est qu'en Dieu seul que l'on peut trouver la pleine confiance dans un amour véritablement désintéressé. Cela m'amène à poser une autre question très importante. Devons-nous plutôt alors suivre Moïse et la loi qu'il a reçue de Dieu pour diriger les hommes? Beaucoup pensent que oui. Mais demandons à Dieu lui-même de répondre à cette interrogation, car il nous parle dans la Bible. L'apôtre Paul, auteur inspiré de Dieu, nous dit en Galates chapitre 3 et verset 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ce médiateur, vous le savez bien sûr, n'est autre que le Christ. C'est de lui dont Moïse parlait quand il disait déjà dans l'Ancien Testament, en Deutéronome chapitre 18 et verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Rien n'est plus clair. C'est maintenant Jésus que nous devons suivre et personne d'autre. Ne pas comprendre l'énorme différence qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est en quelque sorte faire faillite dans sa vie spirituelle. L'Ancien Testament était destiné aux Israélites jusqu'à la résurrection de Jésus. À partir de ce moment-là, Dieu passe avec les peuples du monde entier et non simplement avec les Israélites une nouvelle alliance, un Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au verset 7, dit clairement, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » L'apôtre Paul dit également, en Colossiens, chapitre 2 et verset 14, que le Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant sur la croix. C'est donc bel et bien Christ que nous devons suivre. Non pas Moïse. C'est lui qui nous déclare sans aucune ambiguïté en Jean chapitre 15 et verset 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Telle est la conclusion qu'il tire après avoir démontré clairement par la parabole du pied de vigne et des sarments l'étroite union qui doit exister entre lui et ses disciples. Il est un fait que le monde moderne, devenu de plus en plus matérialiste et pressé de vivre, doit absolument réaliser. C'est que, sans Christ, nous ne pouvons même pas obtenir la connaissance du salut éternel. Les hommes peuvent devenir les plus grands philosophes ou les plus grands savants du monde et posséder même des richesses incalculables. C'est pourtant uniquement de Jésus que peut leur venir la connaissance spirituelle. C'est lui seul qui, selon la Bible, est la lumière du monde. L'étoile brillante du matin, le soleil levant qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Sans Christ, la foi dans l'Évangile devient une chose impossible, car ce n'est que lui qui peut en être dans notre cœur l'objet et l'auteur. La foi vient de lui, elle va vers lui, reçoit tout de lui. Sans Christ, aucune vraie conversion n'est possible, car seule sa puissance peut faire sortir les hommes des ténèbres. Seul lui peut ouvrir les yeux, déboucher les oreilles, soumettre le cœur et renouveler l'esprit. Le Nouveau Testament dit clairement en 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Sans Christ, la vie spirituelle est inaccessible, car c'est uniquement par ses enseignements que nous sommes conduits vers Dieu. C'est uniquement par son sang que nous sommes pardonnés de nos péchés. Romains chapitre 8 et verset 1 proclame « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Sans Christ, l'obéissance à la volonté de Dieu est impraticable. Il ne sert à rien d'être bon, droit, honnête, sincère, et même de croire en Dieu de tout son cœur. C'est lui qui nous avertit en ces termes. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Sans Christ, le réconfort et la paix éternelle ne peuvent être obtenus. Des milliers de voix peuvent essayer de nous donner ces choses, mais seule celle du Christ est la vraie. Écoutez-le vous dire à l'oreille doucement, avec amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11 et verset 28. Connaissez-vous les enseignements de Jésus-Christ? Peut-être le pensez-vous. Dites-vous bien cependant que la plupart du monde chrétien n'en a hélas qu'une vague idée. Nous sommes là pour vous aider à la lumière du Nouveau Testament dans votre vie spirituelle. Vous qui allez commencer une journée de labeur, vous qui êtes peut-être souffrant, vous tous les autres, croyez que nous prions le Seigneur de vous guider et de vous bénir. Ce programme vous était offert par Méditation biblique, au micro, Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie sans aucun engagement de votre part. Il suffit d'écrire à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma, je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. Au revoir, à mercredi prochain, même heure, que le Seigneur vous garde. Ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.